servir.
La preuve,
dit-elle dans un large sourire. Oui, la preuve, répond Sibby. Toutes les deux se mettent à rire, comme si la situation avait été drôle, ou qu'on pouvait enfin commencer à en rire, comme d'une histoire sans réel danger, ou qui serait arrivée à d'autres. Samuel, lui, ne rit pas. Il regarde sa mère avec une colère froide, intransigeante. C'est à chaque fois la même chose. Il n'aime pas l'entendre parler russe, essayer de comprendre ou de partager quelques mots avec les gens qu'on rencontre, même si c'est sur le bord d'une route, le temps de dire trois mots, d'où venez-vous, où allez-vous, comme les enfants qu'on croise et qui veulent souvent les prendre en photo, et comprendre aussi, en échange. Ça leur fait plaisir, et ça fait plaisir à Sibyl. Samuel, lui, n'aime pas voir sa mère dans le rôle de la voyageuse cool, qui s'intéresse aux autochtones. Il trouve ça condescendant et bien-pensant. Pour l'instant, il ne dit rien. Il ne tremble plus. La chaleur de sa peur s'éloigne, comme celle des chevaux. Le corps se calme. Samuel reprend le contrôle de son esprit et de ses sens, de ses idées. Il les retrouve comme elles ne le quittent presque jamais. Intact, critique, tranchante. Jamila et Bektash sont deux jeunes mariés. Ils n'ont pas encore d'enfants. Ils disent avoir 25 ans, mais Sibyl n'est pas sûre d'avoir compris. Elle n'ose pas leur demander de répéter. Elle leur en donnerait volontiers 15 ou 20 de plus. Bektash a fait des études d'ingénierie, mais il a tout arrêté à la mort de ses parents. Maintenant, il travaille comme saisonnier dans les fermes. La fenaison lui prend beaucoup de temps. Sibyl demandera à Jamila si elle aussi travaille à la ferme. Elle n'aura pas d'autre réponse qu'un sourire complice. Sauf que Sibyl ne sait pas à quelle complicité de femme ce sourire doit la renvoyer. Si elle doit entendre que Jamila reste à la maison parce que c'est la place des femmes, si elle est déjà enceinte, ce qui ne se voit pas sous l'étoffe rose et jaune de sa robe, ou si, au contraire, il devrait être évident qu'elle travaille. Jamila a l'air instruit. Il y a des livres dans la maison, ceux du grand écrivain national Chingiz Aitmatov, dont Sibyl a lu quelques traductions pour préparer son voyage, un atlas de la Russie et de l'Asie centrale, un Coran et des magazines. Bektash part seul en voiture. Sa femme propose d'accompagner les voyageurs jusqu'à leur maison. Elle montera sur l'un des chevaux et eux deux, mère et fils, sur l'autre. Ce soir, on boira du lait de jument fermenté, le koumis, de la bière russe, la baltika, on mangera des pâtes et de la viande de mouton, on parlera de la vie et des gens d'ici, et puis, bien sûr, en buvant une vodka, on écoutera ce que les étrangers ont à dire. Car Sibyl et Samuel savent que, contrairement à ce que leur rencontre matinale pourrait laisser présager, les Kirghizes sont un peuple ouvert et généreux. Sibyl et Samuel acceptent l'invitation. On ne peut pas refuser à celui qui offre son hospitalité, surtout quand il vient de vous sauver la vie. Ils arrivent dans cet étrange endroit que Jamila appelle la ville, et qui est un village. Une route poussiéreuse contre laquelle se sont agglutinées des maisons basses, de petites bâtisses maltraitées par le froid et le vent, mais aussi par la rigueur économique et l'isolement, sans doute désertées pour la plupart, mais pas forcément toutes. Il y a des gens sur le bord de la route, des vieux avec leur kalpak, le chapeau en feutre blanc, qui a la forme d'une montagne, des femmes dans des robes colorées, et quelques enfants en survêtements dépareillés. Pourtant, le village semble ne pas avoir de nom, à moins que Sibyl n'ait pas compris celui qu'on lui indiquait. En passant sur la route, des gens les saluent. Certains viennent parler. Des enfants courent dans les jambes des chevaux, et Jamila parle avec eux, cette fois en kirghize. Sibyl ne comprend pas et se contente de sourire. Elle traverse le village et longe la route. Sibyl est étonnée par l'odeur d'essence et de pneus, comme s'il y avait un garage ou une station-service quelque part, mais elle ne voit rien. Une immense citerne métallique rouillée, sans doute de l'eau, impose sa présence au-dessus des toits. Des baraques en dur où des gens sont devenus sédentaires, après le départ des Russes, quand leurs dernières illusions ont elles aussi dû prendre le départ. Car ceux qui avaient attendu de devenir fonctionnaires ne le deviendraient pas. Ceux qui avaient fait des études pour avoir des postes ne les auraient pas. Et le seul trait de nomadisme qui traîne encore chez ceux qui vivent ici, c'est celui que de lointains ancêtres mongols leur ont légué. Pour Jamila et Bektash, des pommettes saillantes, toujours ce cliché collé aux pommettes, sauf que cette fois c'est vrai, elles sont comme deux petits cônes dont le sommet est très éloigné de sa base. Et les yeux, eux, fortement bridés et fins, comme des amandes. Ils dépassent le village et quittent la route, sur la droite, en descendant un chemin de terre. La caillasse ressemble à n'importe quel sentier qui mène vers le bas d'une vallée, pas très loin de là où coule la rivière. Ici, trois maisons. La journée va se passer dans ce coin, où quelques arbres bruissent, sous le vent doux de l'été, à l'écart de ce pseudo-village peu attirant. Jamila est heureuse d'avoir des invités.